Salut tout le monde, c'est Melvin.
Salut, c'est Mariam.
Et bienvenue sur Hand Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Aujourd'hui, nous sommes à la maison du handball et nous accueillons Cécile Mantel, qui est responsable du service juridique à la Fédération française, pour parler du processus de signature d'un premier contrat professionnel ou d'une première convention de formation.
Salut Cécile, comment vas-tu ?
Ça va bien, bonjour Mariam, bonjour Melvin.
Bonjour.
Merci de votre invitation.
Bah, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre requête. Et est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs ?
Oui, donc Cécile Mantel, ça vous l'avez dit, en charge du service juridique à la Fédération. Donc c'est un service qui regroupe les commissions disciplinaires, qualifications, contrôle de gestion et qui traite aussi du coup tout ce qui a plus particulièrement trait au sport professionnel. Et donc j'ai une équipe là-dessus de collaborateurs, de 4 collaborateurs, donc sur toutes les questions d'ordre juridique qui vont du marketing aux questions disciplinaires. Et moi, je suis aussi sur la Ligue féminine de handball, donc en responsabilité sur la partie administrative sportive.
Voilà. Bah super. Alors pour nous, ce qui va être super important dans cet épisode, c'est la notion d'information. On veut vraiment informer les joueuses, les futures joueuses de centre de formation ou les futures joueuses professionnelles sur le processus et comment se passe la signature en fait, d'un premier contrat. Alors si tu veux bien, on va construire ensemble un mini guide audio pour ces personnes-là. Alors, dans un premier temps, que signifie pour toi le passage de Pôle Espoir à centre de formation ?
Alors, Pôle Espoir, je dirais que c'est encore un petit peu le cocon pour une joueuse, parce qu'effectivement, elle est encadrée, elle est logée, au sens souvent en internat, que ce soit dans l'établissement scolaire, donc avec un environnement vraiment protecteur. En plus, c'est une mineure, donc il y a un cadre qui est fixé par la loi pour l'encadrement des mineurs. Et le passage en centre de formation, c'est vraiment la première étape vers le monde professionnel. Donc pour la joueuse et aussi pour la perception de son club, c'est vraiment le premier pas vers une responsabilité en tant que joueuse professionnelle. Même si son statut n'est pas encore celui-ci, elle devient avec des devoirs supplémentaires par rapport à une joueuse de pôle qui n'était que au début de la filière de formation vers le haut niveau. Là, elle met vraiment un pas vers sa carrière pour être handballeuse professionnelle.
Ok, en effet. Et quelles sont du coup les dates à retenir pour toi quand on est en dernière année de pôle? Si on devait faire un calendrier, quelles sont les dates qu'il faut avoir en tête?
Bah, la date la plus importante, je dirais, c'est les résultats scolaires et notamment donc bac ou bac de français pour savoir vers quelle étude peut s'orienter la joueuse, parce que pour moi c'est vraiment l'un des critères déterminants. Évidemment, il y a le choix du club sur son projet sportif, la place que je peux avoir dans l'équipe, ce que me propose le niveau de jeu de l'équipe réserve, etc. Mais donc c'est d'abord le résultat scolaire qui détermine à quelle formation, quelles sont mes envies, je peux prétendre et dans quel club ça m'est proposé, quel est le calendrier scolaire. Donc ça c'est la première hypothèse. En amont, c'est vrai, de cette date, souvent la joueuse est contactée par le club, alors autour des compétitions, on va dire, ou des stages du moins de janvier, février, Interpol, etc. Je pense qu'il faut... La seule date réglementaire qui existe, c'est le 15 juillet et le 15 octobre. 15 juillet, normalement, pour transmettre les conventions à la fédération. 15 octobre pour envoyer les derniers des documents, notamment, par exemple, un certificat de scolarité. Si c'est une inscription en fac, un certificat peut être délivré tardivement. Le mieux, c'est quand même que la joueuse y voit assez clair sur son orientation au cours du mois de mai-juin, même si ses résultats sont fin juin. Voilà. Ça, c'est pour la dernière année de Pôle, tout à fait.
Ok. Et pour l'année, du coup, quand on est en centre de formation et qu'on va devenir professionnel, quelles sont les dates que tu proposerais aussi d'avoir en tête ?
Alors, les années en cours de convention de formation, c'est-à-dire si une joueuse signe plusieurs années, il n'y a pas vraiment d'échéance particulière, si ce n'est les résultats pareil, scolaires, pour voir en quelle année on passe, si on se réoriente, etc. Sur la dernière année d'exécution de la convention de formation, la date, vraiment la date majeure, c'est celle du 30 avril, parce que c'est cette échéance du 30 avril qui est la date fixée par le club pour proposer un contrat pro ou pas. Concrètement, si le club a proposé un contrat pro par écrit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait formalisé vraiment une proposition de contrat et qu'il l'ait transmise à la joueuse, remise en main propre, recommandée, envoi par mail, etc., mais qu'il y ait vraiment une proposition de contrat, si au 30 avril la joueuse a quelque chose, elle est liée par devoir se signer dans son club, je crois qu'on en parlera plus tard. Ouais. Si par contre elle n'a rien reçu au 30 avril, elle est libre, même si le lendemain, le club lui propose quelque chose. C'est vraiment cette date qui est la date très importante à avoir en tête pour une joueuse.
Ça veut dire que si j'ai un autre club qui me propose quelque chose, par exemple le 15 avril, mais que mon club formateur me propose quelque chose le 20 avril, mon club formateur, il est toujours dans les clous. Donc
Oui, il est prioritaire. Voilà. Okay. Donc vraiment, du coup, effectivement, ne rien signer avant le 30 avril avec un autre club, puisque le risque, c'est que la joueuse se mette en difficulté si jamais son club, au dernier moment, lui propose quelque chose. À avoir en tête, alors vous me dites si c'est le moment ou pas, il arrive que des clubs, sur une joueuse qui peut encore renouveler dans le centre de formation, par exemple à 20 ans, après sa première convention, proposent d'abord un renouvellement de convention, courant du mois d'avril, etc., et attendre le dernier moment, puisque là, la joueuse, elle est libre de refuser un renouvellement de convention, elle n'a pas d'obligation, et attendre le dernier moment pour dire, pour quand même, entre guillemets, la bloquer en proposant un contrat pro le 29 ou le 30 avril même. Donc vraiment, c'est ce que tu évoquais, attendre le 30 avril, quelles que soient les circonstances, avant de s'engager ailleurs ou d'être sûr d'être libre.
Donc à partir de là, maintenant qu'on a à peu près la timeline à retenir, quels sont les droits auxquels ont accès une joueuse et en contrepartie ses devoirs vis-à-vis du club quand elle signe une convention formation ou quand elle signe un contrat professionnel?
Oui, alors petit rappel d'abord sur l'âge, donc la catégorie, donc le pôle espoir 15-18 ans, alors avec 13-14 ans éventuellement pour des cas particuliers. Et du coup, centre de formation, c'est dans la continuité du pôle espoir, donc on est sur une catégorie officielle de 18 ans à 22 ans, c'est-à-dire 22 ans pouvant être la date anniversaire obtenue la dernière année dans le centre, avec la possibilité de rentrer par dérogation à 17 ans, voire à 16 ans, pour des profils vraiment très très particuliers. L'idée étant plutôt que dans le centre de formation, on y entre sur une formation post-bac. Donc c'est pour ça, c'est plutôt des 17 ou 18 ans qui entrent en centre de formation. Donc après, une convention, elle ne peut être signée que 4 ans. Donc on peut être au maximum 4 ans dans un centre. C'est-à-dire que si on rentre à 17 ans, c'est au plus tard jusqu'à 21 ans. Si on rentre à 18 ans, c'est au plus tard jusqu'à 22 ans. Bien entendu, c'est une durée maximum. L'élément important à savoir sur cette partie-là, c'est qu'une convention peut être renouvelée qu'une fois. Donc si on signe qu'une saison la première année, ben, on ne peut renouveler que pour une saison ou deux saisons ou trois saisons. Mais en tout cas, on ne peut pas signer une première saison, renouveler une saison et espérer renouveler encore. Donc bien avoir ça en tête, notamment sur la première durée de, ouais, de la première convention de formation. Après, les droits et devoirs, ben, c'est vrai que la convention n'est pas un contrat de travail en tant que tel, mais on est déjà dans une première étape vers le professionnalisme. Donc le principe, c'est vraiment de mettre la joueuse en meilleure condition pour mener de front à la fois un projet vers le handball professionnel, exercé à titre professionnel, puisque l'objectif, c'est de signer un contrat pro, mais aussi d'avoir une formation qualifiante ou diplômante en parallèle pour, en cas de blessure, en cas de réorientation, en cas de soit coup dur, soit de choix même personnel, de pouvoir avoir quand même une formation générale, on va dire, en parallèle. Donc, bah, pour mener de front ces deux projets, il y a des droits et devoirs pour chaque partie, pour la joueuse et pour le club. La joueuse, le club s'engage à prendre en charge une grande partie de son environnement. Quand je dis prendre en charge, c'est lui apporter les équipements nécessaires, sportifs, l'accès aux soins médicaux, etc. Mais aussi des prises en charge financières, donc l'hébergement, la restauration, les frais de transport en commun, notamment quand il y a des abonnements qui existent.
Oui. Je pense qu'on peut ajouter aussi que c'est quelque chose qui est relatif à chaque club. Il n'y a pas de montant imposé en termes de, ou de superficie en termes de imposé en termes d'appartement ou de loyer.
Oui, exactement. En fait, le principe réglementaire fédéral, c'est qu'il y a une prise en charge par le club. Bien entendu, c'est en bonne intelligence par rapport à l'environnement économique du club lui-même, par rapport à la localisation. L'objectif, c'est que le club, raisonnablement, puisse prendre en charge les dépenses qui ont trait à une joueuse de cet âge-là, encore scolarisée et encore en formation. Parce qu'on est bien sur une joueuse qui est encore en formation, qui n'est pas professionnelle. Donc voilà, après, c'est de la négociation. Comme tu disais, ça dépend, est-ce qu'on est en Île-de-France ou pas, puisque évidemment, la politique des loyers n'est pas du tout la même. Ça dépend de quel type de formation je fais. Est-ce que je fais une formation dans un établissement public ou est-ce que je fais une formation privée ou à distance? Quel déplacement je veux, s'il existe des transports en commun, une carte d'abonnement et que la joueuse dit bah non, moi je veux me déplacer en voiture, pour le coup, le club, il n'a pas l'obligation de lui rembourser son essence, voire ses péages, etc. Par contre, donc il y a une base commune qui est fixée par la Fédé, et après, ça relève de la négociation en bonne intelligence entre l'athlète, son environnement et le club. Petite parenthèse, si c'est une joueuse qui est issue de l'outre-mer, elle a aussi le droit à un aller-retour dans sa famille au moment des fêtes et des vacances scolaires. Ça, c'est une obligation de prise en charge par le club. Et elle a des conditions d'accueil particulières pour l'hébergement qui sont imposées par la fédération, c'est d'être en famille d'accueil. Parce que potentiellement, il faut vivre le déracinement loin de sa famille, etc. Donc, il y a une famille d'accueil obligatoire, sauf évidemment si la famille elle-même de la joueuse dit « Bah non, moi, je préfère qu'elle soit hébergée seule. » Ou, hein. Et puis, il y a aussi alors, un élément qui est important, c'est que la fédération, on impose des garanties d'assurance minimales pour les athlètes en centre de formation. De la prise en charge d'ostéo, du remboursement de frais médicaux, etc. Pour cela, on a construit avec l'assureur de la fédération une option qui doit être souscrite par l'athlète, et qui n'est accessible que aux joueurs de centre de formation et qui permet de garantir le niveau minimum qu'on a travaillé, nous, avec les entraîneurs, avec les clubs, pour dire bah voilà, le niveau minimum de garantie pour un centre de formation, pour un joueur de centre de formation en cas de blessure, ça doit être ça. Il y a pareil, hypothèse d'encassé, lunettes, enfin bref, différents degrés de prise en charge. Et du coup, on impose au club non pas de souscrire cette option-là chez l'assureur fédéral, mais par contre, on impose au club de nous justifier que pour tous les athlètes du centre de formation, il a souscrit au moins ce niveau-là de garantie. Donc, soit il souscrit chez l'assureur fédéral, soit il souscrit, c'est son propre assureur ou une autre assurance particulière, mais c'est important. Et on constate malheureusement que les athlètes ne sont pas trop au fait de ça, parce que bien souvent, on s'en préoccupe que le jour où on se blesse ou qu'on se casse une dent à l'entraînement, prendre un coup de coude ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment important que les athlètes soient aussi demandeurs à leur club. Est-ce que vous avez bien mis en place les garanties d'assurance complémentaires?
Ok. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'assureur de la fédération?
Alors, l'assureur de la fédération, c'est MMA. Lui, c'est celui qui couvre tous les licenciés, je veux dire du licencié de base départemental au dirigeant. Et cet assureur, il propose, donc il y a cette option complémentaire qui est réservée au centre de formation. Et petite parenthèse, mais peut-être qu'on anticipe sur la suite, pour les joueurs professionnels, pareil, il y a deux options d'assurance. Alors là, ça relève du choix de l'athlète.
Ouais.
Mais pareil, avec des garanties, avec deux niveaux. Un niveau moyen, mais qui est déjà intéressant pour le joueur professionnel, et un niveau supérieur pour les joueurs qui gagnent très bien leur vie, parce que notamment, ça garantit des compléments de salaire en cas de blessure et d'arrêt de travail.
Ok.
En termes de devoirs des joueurs vis-à-vis des clubs, je pense qu'on n'a pas parlé de la redevance quand on a signé des années de formation.
Oui.
La redevance que le joueur a vis-à-vis de son club.
Oui, absolument. Alors ça, en fait, c'est effectivement... le principe, c'est que c'est un peu comme dans la fonction publique, par exemple, quand la fonction publique hospitalière prend en charge les formations. C'est-à-dire que quand une structure prend en charge des coûts liés à la formation d'un athlète, d'une joueuse, il est convenu entre les parties que la contrepartie, c'est qu'effectivement, du coup, les premières années d'exercice de l'activité professionnelle par la personne formée soient au profit de cette structure-là. Elle a la possibilité, évidemment, d'aller signer ailleurs, mais dans ce cas, elle doit en quelque sorte rembourser. C'est plus un dédit de formation. Alors, les calculs, c'est toujours des usines à gaz pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour couvrir les frais. Il y a depuis plusieurs années des bagarres entre les représentants des clubs et les représentants des athlètes pour savoir c'est trop, c'est pas assez, etc. Aujourd'hui, on est arrivé à un mode de calcul où une joueuse qui arriverait en fin de formation, de convention de formation, à qui un club proposerait un premier contrat pro, doit, donc avant le 30 avril, toujours cette fameuse date du 30 avril, doit signer dans ce club. Alors, c'est un contrat au maximum de 3 ans, qui peut être négocié sur une durée inférieure, hein, 2 ans, 1 an, c'est de la négociation entre l'athlète et le club. Et si la joueuse veut se libérer de cette obligation de signer dans son club, effectivement, elle doit rembourser ce qu'on appelle des droits de formation dans notre règlement, et qui sont calculés aujourd'hui par saison passée dans le club. Donc, il y a une part fixe, qui est de 15 000 euros par saison, et ensuite peut s'incrémenter une part variable, peut s'ajouter donc à ces 15 000 euros une part variable qui dépend du nombre de matchs que la joueuse a joué dans l'équipe première, donc en D1, si elle a joué plus de la moitié des matchs, 5 000 euros de plus. Elle doit 5 000 euros de plus potentiellement au club. Et si en plus elle a eu des sélections en équipe de France, alors en fonction de U16, U17, U18 ou France A, là pareil, c'est pareil chez les filles et les garçons, il peut y avoir jusqu'à 10 000 euros de plus encore de droits. Donc au final, une joueuse qui a passé une saison dans le centre de formation, qui a été internationale et qui a joué plus de la moitié des matchs en D1, elle peut être amenée à devoir payer 30 000 euros pour se libérer de l'obligation. Donc ça, c'est des sommes qui sont vraiment significatives. Alors, le club n'est pas obligé de réclamer la totalité. Il peut y avoir aussi une négociation de club à club. Ensuite, soit parce que la joueuse, elle veut continuer sa carrière, mais en D2 ou en N1, et que le club, il a son club quitté, il n'a aucun enjeu de concurrence, etc. Donc il peut très bien dire, bah, moi, je fais cadeau des droits. Soit parce que bah, les clubs s'entendent, et de toute façon, il y a une collaboration, et il dit, bah, ok, la joueuse va signer chez toi, et puis peut-être que dans 2 ans, elle sera guérie, elle reviendra chez moi, donc on ne fait que 10 000 euros. Mais c'est sûr, il peut y avoir potentiellement des droits à un montant bloquant pour la joueuse.
D'accord. Donc si, par exemple, j'ai signé mon dernier contrat de forme, ma dernière convention de formation a duré, par exemple, 2 ans,
oui.
Je dois... pas forcément 2 années professionnellement club. C'est,
non.
Je peux les négocier, ça peut être 1 an.
Oui, okay. C'est-à-dire que c'est au maximum 3 ans. Même si tu n'as signé qu'une saison dans un centre de formation,
ouais.
La théorie qui est fixée par la loi, là, c'est pas la réglementation fédérale, c'est que le club peut même te proposer un contrat de 3 ans.
D'accord.
Et que si vous vous entendez pas, si tu pars, tu dois rembourser ton année de formation.
Quand même, d'accord.
Ouais. Okay. Donc c'est vraiment pas lié, effectivement, c'est 3 ans maximum. Mmh. Après, c'est maximum. On constate en handball que c'est souvent plutôt 2 ans, la durée du premier contrat pro. C'est rarement 1 an quand même, en handball féminin, mais c'est souvent 2 ans, voire 3 ans.
Ok.
Ce qui peut être important, ça me fait penser d'ailleurs, c'est que, par exemple, au renouvellement d'une convention de formation, de d'ores et déjà évoquer avec le club, si jamais, parce que le motif de refus de signer dans un club pro, il peut être de la mésentente. Il peut être aussi que le poste est bouché. Par exemple, il y a déjà 2 voire 3 joueuses devant. Il peut être qu'on demande une réorientation sur un poste. Enfin bon, il peut y avoir des raisons tout à fait légitimes sportives. Et du coup, ça peut. Alors chaque joueuse voit ensuite en fonction de sa maturité, etc. Mais elle peut aborder au renouvellement de sa convention. Et du coup, si je ne signe pas chez vous, est-ce que vous demanderez la totalité des droits de formation, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà se mettre d'accord sur le fait que vous demanderez au maximum 10 000 euros ou voire moins, enfin tu vois.
D'accord. Donc la joueuse peut se sentir libre en fait de elle questionner son club sur ce genre de questions.
Oui. Ouais.
Ok. Ok. Alors il y a des contrats, il y a d'autres types de contrats qui existent aussi.
Parce que moi j'ai signé ma 2e convention, mon club m'a rajouté un contrat stagiaire. Et du coup, on aimerait savoir ce que ça apporte de plus d'avoir ce type de contrat quand on a une convention déjà en cours.
Alors, ton club t'a rajouté, donc sans demander, ça doit être rare.
Non, mais on m'a proposé un contrat stagiaire que j'ai accepté.
Oui, le contrat stagiaire, en fait, c'est un contrat de travail déjà. Donc, ça place vraiment la joueuse qui est en convention de formation en plus dans une relation de travail avec son club. Donc, ce qui permet... de commencer à ce que le club cotise, elle et le club cotisent au régime d'assurance retraite, de chômage, bon évidemment assurance maladie. Alors c'est des petites cotisations souvent parce que les salaires sont pas énormes, mais ça commence à ouvrir des droits. Ça c'est un premier truc intéressant. Deuxième chose, en fait le contrat stagiaire c'est juste le moyen de rémunérer la joueuse en complément des prises en charge qu'elle a déjà via sa convention de formation. Donc c'est le moyen de lui verser du salaire. On demande 2 documents dissociés parce qu'il y a un enjeu de risque de redressement pour le club si jamais il payait tout sans faire de contrat de travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un contrat qui est vraiment dissocié. Mais ce contrat, il peut très bien être signé dès l'entrée dans le centre de formation. On peut très bien l'imaginer. Il peut être signé à tout moment des 2, 3 ou 4 années dans le centre.
Et du coup, c'est plus intéressant quand on est en fin de centre de formation ?
Bah, c'est surtout plus logique, parce que c'est vrai qu'une joueuse qui entre à 18 ans ou 19 ans dans un centre, qui est encore fortement impliquée dans sa scolarité, etc., le club peut se dire « j'attends un petit peu de voir pour affiner, est-ce qu'elle s'oriente vraiment vers le métier de joueuse professionnelle ?» Et à 19, 20, voire 21 ans, effectivement, se dire « elle, vraiment, j'envisage de lui proposer un contrat pro ». Je la garde encore un peu dans le centre avec son accord parce qu'elle a un diplôme universitaire à finaliser, parce que je veux encore tester sportivement. Enfin, après, bon, ça, vous connaissez mieux que moi. Mais du coup, ça peut être le moyen, par contre, de déjà commencer à la rémunérer. Contrat stagiaire, c'est au minimum un carton. Donc, grosso modo, ça équivaut, en théorie, à une 10 heures d'heure consacrée handball par semaine au minimum et à peu près à 400 euros brut. Alors, ça va vraiment pas loin. Hein, si ça, c'est le minimum. Mais il n'y a pas de plafond. Donc, on a déjà vu... Alors, dans le secteur masculin, des contrats stagiaires qui étaient déjà à 1500 euros, par exemple, sur la dernière année du centre de formation. Mmh. Parce que c'était des joueurs qui étaient très performants, à qui on demandait de s'entraîner exactement de la même manière que l'équipe pro. Donc c'est une manière pour le club, parce que le club, ça lui permet aussi d'avoir l'assurance que le joueur reste encore plus longtemps chez lui. C'est-à-dire, plus il est dans le centre de formation longtemps, plus potentiellement le contrat pro ira loin. Parce que s'il est en convention de formation jusqu'à 22 ans, mmh. il peut potentiellement être dans le club sous contrat pro à devoir signer jusqu'à 25 ans. Mmh. Donc le contrat stagiaire, ouais, c'est une bonne... Moi, je pense que lors du renouvellement d'une convention de formation, il faut que la joueuse aborde la question. Ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation. Une fois de plus, c'est une négociation entre le club et l'athlète. Mais si le club propose un renouvellement, ça veut dire quand même qu'il continue de miser sur ce qu'elle, elle lui coûte pas très cher encore, puisqu'elle est prise en charge, mais elle n'était pas rémunérée jusqu'à présent. Elle ne sera pas rémunérée à la hauteur d'une joueuse pro, donc ça peut être le moment de dire on commence par un contrat à temps partiel, etc.
Ok. Donc une fois qu'on
n'oubliez pas de demander.
Voilà.
Ouais, important, c'est qu'il n'y a vraiment aucune question taboue. Et on se l'est dit un petit peu avant. Je crois moi vraiment que les joueuses, elles mettent un premier pied dans le professionnalisme et leur crédibilité en tant que future joueuse professionnelle passe aussi par ça, passe aussi par montrer qu'elles commencent à être responsables, qu'elles se posent les questions, qu'elles s'interrogent, qu'elles veulent comprendre. Et donc il n'y a vraiment pas de questions idiotes, enfin, au contraire, il vaut mieux se faire préciser l'ensemble des éléments dès le début avec le club. Et je suis persuadée qu'un club, il est sensible à ça.
Ouais. Ouais. Bah, une fois qu'on a ce contrat intermédiaire, on passe souvent après un contrat pro, à part si on a envie d'aller autre part pour nos études ou autre chose. Et donc, une fois qu'on fait le pas dans le monde professionnel, en fait, quelle est la véritable différence en fait, d'un point de vue contractuel ?
Alors, pour le coup, sous réserve des discussions qu'il y a, mais le contrat de joueuse pro, c'est un contrat à temps plein. De joueuse professionnelle. Oui, j'ai d'ailleurs précisons que l'obligation pour la joueuse de signer dans le club, c'est uniquement si le club lui propose un contrat à temps plein.
Ouais.
S'il lui propose un contrat inférieur, la joueuse peut aller signer dans un autre club un contrat à temps plein sans devoir aucun droit de formation. Donc du coup, si la joueuse s'engage à temps plein dans un club, par définition, elle doit consacrer son temps de travail, donc c'est les fameuses 35 heures par semaine qui peuvent être lissées en fonction des déplacements, des charges de match, etc. Donc normalement, toute autre activité, y compris par exemple scolaire ou de formation complémentaire, doit être hors de son temps de travail. Donc là, elle ne peut plus revendiquer le droit à double projet, sauf si ça fait partie de la discussion qui a été négociée avec le club et qui peut être mentionnée dans le contrat. Les droits et des devoirs, alors là on passe vraiment, du coup on est dans le champ du droit du travail, donc c'est vraiment le droit commun. Alors on est sur le régime du contrat de travail à durée déterminée, qui n'est pas la norme dans le monde du travail habituel, puisque c'est plutôt le CDI, mais pour le coup le CDD est plus protecteur en sport professionnel, parce qu'il permet à l'employeur de ne pas pouvoir se séparer d'un athlète à n'importe quel moment. Et donc la priorité est toujours pareil, c'est de se dire que certes c'est un club qu'on connaît, dans lequel on est licencié depuis longtemps, dont on connaît les dirigeants, on connaît les entraîneurs, etc. Mais c'est le monde du travail, donc c'est pas non plus de la suspicion ou du procès d'intention, hein, bien entendu, mais c'est qu'il faut être rigoureux et que notre responsabilité de salarié, c'est vraiment de lire et de réfléchir à tout ce qu'on nous demande de signer, parce que ce sont des engagements qui sont longs, qui sont des engagements sérieux. Enfin, on est dans le monde du travail. Le monde du travail, ça veut dire aussi que s'il y a une faute à un moment donné, il peut y avoir un licenciement. Et c'est exactement les mêmes procédures qui se passent dans n'importe quelle entreprise. Donc, c'est vraiment la responsabilité de comprendre ce qu'on signe.
Et donc, du coup, on a signé un contrat professionnel et il s'avère
C'est pas grave. On la coupera au montage.
Il arrive à terme. Dis, c'est pas nous. Il arrive à terme. Il arrive à terme où on veut faire une rupture.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe
Oui, alors du coup, si tu m'autorises, je vais évoquer ça aussi d'ailleurs pour la partie, pour la joueuse en centre de formation.
Ok.
Oui.
Faisons une pierre de
coup. Après, voilà, on reviendra sur le contrat pro. La joueuse qui est en centre de formation et pour des raisons personnelles, sportives, scolaires, peu importe, n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de sa convention de formation, elle a évidemment la possibilité de rompre son contrat, même si jamais son club n'est pas d'accord pour signer un avenant de rupture d'un commun accord. Donc elle peut le rompre, ce qu'on appelle de manière unilatérale. La seule chose qu'elle doit avoir en tête, c'est que évidemment, si elle rompt son contrat, dans ce cas-là, elle ne peut pas s'engager, enfin si elle rompt sa convention de formation, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, elle ne peut pas s'engager dans un autre club pendant les 3 prochaines saisons. Parce que l'objectif, c'est que sinon ce serait trop facile. Je romps mon contrat, ça ne va pas, et puis je vais signer ailleurs sans devoir, ni droit de formation, ni quoi que ce soit. Donc la joueuse, il faut juste qu'elle soit une rupture, ça peut être parfaitement légitime, à la limite elle n'a même pas besoin de s'en justifier, mais par contre il faut qu'elle sache que dans ce cas-là, elle ne peut pas s'engager pour être professionnelle.
Elle ne peut pas s'engager pour être professionnelle, mais elle peut continuer si elle veut jouer en N1 quelque part.
Elle ne peut ni s'engager en pro, d'accord, ni en centre de formation.
Après elle peut continuer à jouer en balle, quoi.
Ça l'intéresse.
Et donc, la rupture de contrat d'un professionnel, oui, comment ça se passe? Alors, quelle est la différence?
Alors, le principe, là, donc comme je disais tout à l'heure, on est dans le champ du code du travail, donc du droit du travail. Donc déjà, vraiment, chose très importante à avoir en tête, parce qu'on se rend compte qu'il y a de la méconnaissance, c'est qu'un CDD, il peut être rompu que pour 3 motifs qui sont prévus par le code du travail et auxquels ni un employeur ni une joueuse ne peut déroger. Premier motif, c'est la faute grave de l'une ou l'autre des parties. Le deuxième motif, c'est l'accord des parties, évidemment, donc faire un avenant de rupture, etc. Le troisième motif, c'est le cas de force majeure. Et là, ce qui est important de préciser, c'est un cas de force majeure, c'est quelque chose qui est extérieur, et au club et à la joueuse, insurmontable et incontrôlable. C'est-à-dire que concrètement, souvent les clubs, ils se disent... Si je descends en D2, c'est un cas de force majeure, le contrat est rompu automatiquement, un contrat de travail. Ce qui est faux, la jurisprudence là-dessus, alors dans de multiples disciplines, est claire. La descente sportive et même la rétrogradation administrative ou financière, un club qui est en dépôt de bilan ou un club qui a signé par les URSSAF ou un truc comme ça, c'est prévisible, puisque potentiellement, le club, il sait qu'il est dans un championnat, qu'il y a des montées, des descentes, donc il peut être relégué.
C'est vrai que c'est pas bête. Moi, je savais pas ça. Je pensais que c'était quelque chose de tacite, quoi.
Moi, ça me paraissait logique.
Non, et souvent, alors...
Peu importe en quelle division t'es, ton contrat...
Pour moi, tu signes un contrat, par exemple, de première division.
Oui, voilà. C'est pour ça que...
Moi, j'ai signé un contrat en LFH, donc pour moi, si je joue plus en LFH...
T'as signé un contrat
joueuse professionnelle,
t'as pas signé la division dans laquelle tu joues.
Okay. C'est juste que, bien entendu, club et joueuse pourront s'entendre pour dire le club descend, toi t'as intérêt à continuer de jouer en D1, moi je veux faire une économie de masse salariale, donc on est tous les deux d'accord, on rompt le contrat.
Okay.
Mais par contre, ni toi ni le club pouvaient imposer à l'autre partie de dire puisqu'on descend, le contrat est caduque.
Okay.
C'est juste ça le... C'est juste ça la nuance. Okay. Et souvent, c'est vrai qu'on a constaté, mais c'était vraisemblablement de la méconnaissance, que les clubs mettaient une clause comme ça, jusqu'il y a quelques années, dans les contrats de travail. Donc ça mettait un peu une pression, à la joueuse, qui elle-même ne savait pas trop et signait. Alors, ce n'est pas une clause de toute façon, c'est une clause qui, si ça venait devant les prud'hommes, serait déclarée nulle, parce qu'elle est contraire au code du travail. Mais juste à savoir... En cas de le motif de la relégation n'est pas un motif qui peut imposer une rupture de contrat à l'autre partie.
Okay.
Par contre, pour autant, donc, comme je disais, les 3 motifs de rupture, il y en a juste un quatrième que j'ai pas signé, mais que j'ai pas signifié, mais qui s'applique pas en sport, c'est la signature d'un CDI. Si je suis en CDD dans une grande entreprise et qu'en fait on m'offre un CDI dans une autre entreprise, je peux rompre mon contrat pour aller signer parce que dans le marché du travail, le CDI est plus pérenne dans l'emploi, mais ce qui n'est pas valable en sport. Donc du coup, ça aboutit au constat qu'en fait, on ne peut pas décider de partir sans l'accord de son employeur, sauf à faire valoir une faute grave ou un cas de force majeure. ne peut pas décider de rompre un CDD. Alors par contre, on peut s'entendre avec son employeur, comme je disais. S'entendre, ça peut être pareil, mon nouveau club rachète ma dernière année ou mes mois de contrat restants, ou on se met d'accord pour que tu m'autorises à aller jouer en D2 pendant une saison, la dernière saison d'exécution de mon contrat, et puis comme ça, je ne suis pas en concurrence avec ton niveau de jeu. Mais ça n'existe pas, si tu veux, la possibilité de rompre automatiquement, sauf à prendre le risque des prud'hommes. Après, dans les motifs de faute grave, à bien avoir en tête, évidemment, le premier devant tous les autres, c'est le non-paiement d'un salaire. C'est-à-dire, le salaire, il doit être payé 30 jours glissant de date à date, au plus tard le 5 du mois suivant. Moi, je préconise d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, à ce que les joueuses demandent à ce que ce soit payé par virement bancaire plutôt que par chèque, parce que par chèque, des fois, on n'arrive pas à se voir avec le club. Et puis après, il y a le délai d'encaissement, donc prévoyez un virement bancaire, c'est plus sûr et c'est plus sécurisant. Et le club, il n'a pas droit à un retard, je veux dire, même d'un jour. Évidemment, ça peut toujours arriver, on l'a déjà accepté. L'important, c'est la transparence, de vous prévenir. Mais un club qui ne vous aurait pas payé, par exemple, le 10 du mois, déjà 5 jours de retard, vraiment, faites une mise en demeure qui peut être juste un courriel. Il faut simplement une trace écrite en disant, je constate que mon salaire n'est pas régularisé. Je vous demande de régulariser, donc de mon salaire du mois d'octobre n'est pas payé. Je vous demande de régulariser au plus tard le 15 novembre. Parce que cette phase de mise en demeure, c'est un préalable qui est vraiment obligatoire pour ensuite pouvoir rompre le contrat et du coup aller signer ailleurs. Et donc il faut vraiment qu'il y ait une première trace écrite qui laisse le soin à l'employeur de pouvoir régulariser sa faute, là en l'occurrence le non-paiement du salaire.
Okay.
Et ça permettra, par exemple, si vous êtes dans cette situation et que du coup vous changez de club en France ou à l'étranger, la fédération, on doit valider votre mutation, votre transfert international. Et nous, on ne validera, on ne reconnaîtra la faute du club et le non-paiement d'un salaire que si vous avez bien respecté la procédure qui est demandée par les prud'hommes ensuite.
Okay.
Donc c'est vraiment une phase, N'hésitez pas, ça aussi, à faire remonter à la fédération quand il y a une information de ce type, pour que nous aussi, on puisse suivre et accompagner les choses.
Et tu viens de parler de transfert international, je pense que ça va être notre dernier point là-dessus. Est-ce que quand... Je suis en fin de contrat ou quand j'ai envie de casser un contrat, mais pour partir à l'étranger, est-ce qu'il y a des contraintes particulières ?
Oui, bonne remarque. À savoir, contrairement au système français où le droit de formation n'est dû que quand on refuse de signer dans son club formateur, le système international, donc IHF, EHF, là, impose pour tout transfert international, donc départ de France vers un club étranger, d'un jeune de moins de 23 ans, qui a été déjà sous contrat, donc soit sous contrat pro, soit sous convention de formation, soit même sous contrat espoir fédéral, donc qui a une convention avec un club ou la fédération, avant ses 23 ans, de payer des droits de formation, donc impose au club étranger qui voudrait accueillir cet athlète de payer à la fédération française, qui reversera elle-même au club français, des droits de formation. Et ces droits de formation sont très élevés, ils sont de 3100 euros par saison. Donc un athlète qui partirait par exemple à 22 ans et demi et qui aurait déjà fait 5 ans dans un centre de formation, un pôle ou voire un contrat pro, il aurait 5 fois 3000 euros déjà à payer. Enfin, son club d'accueil aurait 5 fois 3000 euros à payer. Dans tous les cas, c'est, même s'il est totalement libre de muter sans problème, d'être transféré. Donc ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte, sachant qu'en plus, peuvent se rajouter à ces montants si l'athlète est international, a une sélection, quelle que soit la sélection concernée, jeune, junior, espoir, tous les U et France A, peut se rajouter des droits de formation supplémentaires de 1300 euros par saison durant lesquels il y a eu une sélection, une sélection. Donc ça peut chiffrer assez vite. Donc ça, effectivement, si vous discutez d'un transfert à l'étranger avec le club d'accueil qui a forcément l'information, parce qu'un jour ou l'autre, si c'est des clubs de première division, ils auront déjà eu des transferts. Donc il est forcément au courant qu'il y a des, si vous arrivez à moins de 23 ans, qu'il y a des droits. Donc faites attention à ne pas occulter le fait, parce que derrière, il peut être un peu de mauvaise foi et se dire « tu ne m'avais pas prévenu, donc du coup, je te demande de participer aux droits. »
D'accord.
Donc, bien prendre en compte.
Et du coup, ça, c'est que si on a moins de 23 ans.
Oui,
si j'ai 24 ans, il n'y a pas de droit de...
J'ai le droit de partir à l'étranger.
Et même à 23 ans et un jour, Donc, important, si vous êtes né en juin, juillet ou août, bien faire attention pour qu'effectivement le transfert soit demandé après votre anniversaire des 23 ans.
Ouais,
ok. Okay. Bon, à savoir.
Bah, très bien. Ok. Bah, là, je pense qu'on a les informations principales hein, sur le contrat pro, stagiaire et la convention de formation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peut-être parler du processus factuel. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en dernière année de pôle et qu'est-ce qui se passe quand je suis en dernière année de convention de formation ? Comment je fais pour négocier mon contrat ? Avec qui j'y vais ? Voilà, comment ça se passe, quoi ?
Tu vas recevoir une proposition. Ou pas.
Ou pas. Ouais.
Mais si un club tu es en convention, tu vas certainement recevoir une convention ou tu vas certainement les voir en stage national. Les coachs de centre, tu vas certainement les voir en stage. Ils vont peut-être venir te voir pour te dire qu'ils sont intéressés pour que tu rentres dans leur centre de formation.
Mais tu peux aussi, toi, aller les voir.
Tu peux aussi, toi, aller demander. Sachant que c'est pas parce que quand tu es au pôle, tu joues dans un club que tu es obligé d'aller dans le centre de formation de ce club. Si tu es déjà dans un club où il y a un D1 ou une D2 VAP, tu n'es pas obligé, tu peux aller où tu veux. Quoi.
Ouais.
Rien ne t'oblige.
C'est ça.
Voilà.
Oui, le recrutement, il est national. Que tu sois déjà licencié dans un club qui a un centre de formation ou que tu sois licencié dans un club à proximité d'un centre de formation, il n'y a aucune obligation à aller signer. C'est bien souvent dans l'inconscient ce qui semble le plus naturel, mais là aussi, ça dépend des profils sur... de postes sur l'équipe réserve, sur l'équipe une, enfin vraiment du profil de l'entraîneur et surtout de l'environnement scolaire qui est proposé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez été approché comment, par exemple, pour qu'on vous propose une convention de formation ?
Moi, je me souviens que c'était quelque chose d'assez tacite, en fait. J'étais au club... J'étais déjà au club licencié au club depuis 2-3 saisons. Mon entraîneur de l'équipe réserve, c'était en fait l'entraîneur du centre de formation, donc j'avais déjà discuté beaucoup avec eux et c'était un peu dans la continuité, je pense, de ma présence dans le club en fait. Donc j'ai pas forcément été sollicitée par d'autres entraîneurs que ceux de mon club de référence.
Ouais, pareil, hein, y a pas. En fait, je pense que ça s'est fait genre quand on est. Parce que moi aussi, c'est mon club formateur. Enfin, j'étais déjà. Quand j'étais au pôle, c'était déjà dans le club qui m'a fait signer ma convention. Et c'était genre la réunion de fin d'année, de milieu d'année, où tu discutes de la saison. Et puis, on en est venu à ça.
Mais
Moi, j'ai pas eu non plus de proposition extérieure.
Ouais, donc on n'a pas forcément l'expérience d'une fille qui parfois se fait approcher par plusieurs entraîneurs. À ce moment-là, je pense que. Pour cette personne-là, ce qui est important, c'est de recevoir les conventions et de les lire toutes très attentivement, de poser les questions, par exemple, si on est attiré par une formation scolaire, de savoir dans quelle ville elle sera plus dispensée. En fait, de s'informer pour voir si ce qui nous intéresse correspond et est proposé par
Et vous pensez, quoi. Par exemple, que est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas lors des, je pense aux Interpôles, parce que c'est l'une des dernières compétitions sur la dernière année, de regrouper toutes les joueuses ou de leur proposer vraiment un moment d'échange avec les différents responsables de centre qui souvent maintenant viennent assister à la compétition.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça.
Ouais, moi parce je pense que c'est...
Parfois
de proposer, en fait, que le moment puisse avoir lieu. Après, chacun est libre.
Oui, moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que des fois, on apprend ultérieurement qu'en fin de compte, on aurait pu aller à plusieurs destinations et qu'on s'est retrouvé qu'avec une parce qu'on a dans tout le monde cette pensée qu'on doit signer où on est déjà ou proche de chez nous alors qu'on est mobile de nos jours.
Ouais, bah oui.
Et les, aussi du côté opposé où les coachs ils viennent pas nous parler. Et du coup, il y a un manque de communication. Ouais. Donc, c'est pas bête de faire...
Je pense que c'est bien de faire rencontrer l'offre et la demande.
Ouais, c'est ça. Fait,
tu vois. Non, mais c'est
ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est
surtout
vraiment
intéressant. Les Interpôles, c'est l'occasion, vu que tout le monde est réuni.
Ouais.
Ouais.
Ouais, puis
où la plupart des gens concernés sont réunis.
Ouais. Parce que, comme tu disais, l'idée, c'est quand même que vous ayez, en fonction de votre parcours scolaire, une vision de où c'est qu'il y a des aménagements qui fonctionnent, où c'est qu'il y a du tutorat, à quel endroit la formation qui m'intéresse est particulièrement proposée, ou l'établissement, je sais que c'est un établissement de qualité. Enfin, voilà, c'est intéressant de confronter tout ça. Et puis même, de toute façon, il n'y a pas de droit acquis, enfin, je veux dire, au cours d'une carrière pour personne. Donc, c'est intéressant. Ouais, on peut en discuter.
Ouais. Très bien. Sachant que dans certains clubs, par exemple, je vais prendre mon cas où je suis dans une formation où j'étais la première qui faisait cette formation dans ce club. C'est-à-dire que maintenant, on a cet historique. Et du coup, on sait que si une autre fille vient et veut faire la formation, on sait le faire parce que je suis passée avant, etc. Parce que des fois, dans certains clubs, c'est toujours les filles, elles veulent faire la même chose. Donc, en fin de compte, tu sais pas si tu peux proposer autre chose parce que personne n'a fait la demande pour autre chose.
Ouais. Oui, donc, puis du coup, des fois, c'est
si tu sais déjà à l'avance que dans ce club, il y a déjà eu 4 filles qui ont fait cette formation, tu as plus de chances qu'ils te disent, oui, nous, on le fait, viens chez nous. Enfin,
vous avez compris.
Oui, mais on s'était posé la question, nous, à la fédération, d'afficher, par exemple, sur le site ou un truc comme ça, une présentation de chaque centre de formation et d'indiquer quelles étaient les filières dans lesquelles il y avait des aménagements de scolarité ou des allègements. Et ou les deux d'ailleurs, la possibilité de passer un diplôme en plusieurs années, de pouvoir dispenser des examens, d'avoir un tutorat, des horaires aménagés, enfin voilà, parce qu'on se disait que ça c'était vraiment une information qui pouvait intéresser les joueuses et joueurs d'ailleurs et leurs familles, de savoir effectivement cette filière là qui est une des filières qui m'intéresse, est-ce que c'est la filière classique où va falloir que je me démerde pour rattraper les cours. Oui, où je ne serais pas dispensée d'examen, même si j'ai un match ou une sélection, ou est-ce que c'est une filière où je sais que le club, il a un environnement qu'il a déjà mis en place avec l'établissement. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Et après, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a une voie qui n'a pas été explorée dans le club qu'il ne faut pas la demander. Parce que des fois, le club, il peut se dire aussi, moi, je vais mettre tout le monde en STAPS, ce sera le plus simple. Et comme ça, alors, ce n'est pas trop vrai en handball féminin, sincèrement. Mais on l'a vu en handball masculin et du coup faut pas avoir peur de demander, voilà, c'est aussi le rôle du club qui veut une athlète de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse faire la formation qu'elle veut, ses sources d'équilibre je veux dire personnel, d'épanouissement et puis en plus ça lui donne le bagage qu'elle veut faire, elle sera là la fédération est à disposition aussi pour accompagner les clubs, on essaie de faire ce qu'on peut pour essayer de peser sur l'enseignement supérieur ou les différents établissements privés pour essayer de faire comprendre que l'accompagnement vers le haut niveau, vers le professionnel, ça nécessite des aménagements.
Ouais, bah il y a de plus en plus de plus en plus je trouve d'établissements quand même qui font la démarche. Moi je connais pas mal de filles qui sont à l'école à Grenoble, à GEM. Moi j'ai un cursus à Sciences Po avec vraiment une classe où on n'est que des sportifs de haut niveau et on peut vraiment avoir un suivi et un aménagement de la scolarité qui est formidable. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister.
Ouais, les clubs ont longtemps eu peur parce que ça paraissait difficile à mettre en place, etc. Mais je pense que maintenant les établissements scolaires ou enfin universitaires au sens large ont vraiment compris que même pour eux c'était une chance. Parce que la capacité d'organisation, la détermination, etc. des sportifs de haut niveau, c'est intéressant. Puis il y a aussi un enjeu d'image pour eux. Donc faut vraiment pas hésiter à tenter d'être pionnier, même pour des filières qui n'étaient pas celles envisagées initialement par le club. Ouais.
Moi, par exemple, l'école où j'avais été acceptée quand j'ai fait mon admission post-bac, je suis allée aux portes ouvertes et j'aurais posé la question tout simplement, est-ce que si je suis sportif de haut niveau, je peux rentrer dans l'école? Ils m'ont dit non. Je peux pas. Et du coup, j'en ai parlé à mon club. Et en fait, ils ont eu plusieurs rendez-vous entre le club et l'université. Et en fait, ça a pu se mettre en place. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu de sportif avant. Donc, la réponse logique, c'était non. Mais moi, du coup, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire les études que je veux.
Ouais.
Et en fin de compte, quand on regarde avec le recul, ça s'est très bien passé. J'ai pu faire mon DUT en 3 ans. J'ai eu mon diplôme et il n'y a pas eu de soucis. Pour proprement parler, du coup, des fois les écoles vont dire non au premier abord parce qu'ils vous voient tout seul, vous êtes là, vous venez comme ça. Mais la chose qui a permis ce succès dans ce nouveau projet, c'était, moi je pense, l'anticipation. Parce que vu que je suis venue tôt, j'ai pu le dire au club vite, et du coup, on a pu enclencher ce qui a dû être enclenché le plus vite possible. Parce que si tu viens en juillet, quand l'école est fermée, ils vont pas te dire. Nous, on avait peut-être enclenché, je sais pas, peut-être février, mars.
Donc voilà, le rôle des joueuses et des familles de s'informer en fait aussi sur ce qu'elles veulent.
C'est ça.
Précisément. C'est ça. Et qu'elles soient proactives en fait.
Oui.
Et identifier le bon interlocuteur dans l'établissement, parce que aux portes ouvertes, c'est pas forcément la personne qui sait ce que ça veut dire sport de haut niveau et qui sait ce que ça peut impliquer, et puis qui est motivée pour essayer de trouver des solutions. Et aussi au sein du club, parce que c'est pareil, c'est pas forcément l'entraîneur pro ou le responsable administratif qui sera le mieux à même d'être au courant de bah, « tiens, là, il y a un cadre, ça me permet de m'appuyer sur... telle loi ou telle réglementation française pour avoir des aménagements d'examen, etc. » Donc identifier des deux côtés quel est le meilleur interlocuteur. Et comme tu dis, l'anticipation. Mais effectivement, la motivation de l'athlète, je pense, sera déterminante.
Ouais.
Il ne faut pas que ce soit une filière par défaut. Il faut vraiment que ce soit...
Voilà,
et plus tu es motivé, plus tu entraînes tout le monde dans ta propre motivation.
Ouais. Mmh. Surtout que ce n'est pas facile d'avoir des semaines où on enchaîne, on jongle entre les cours et les entraînements, parce que ce n'est plus le pôle, quoi.
Ouais.
Au pôle, c'est vraiment tout aménagé autour de la pratique sportive. Même si on peut faire des aménagements après ça, le hand prend quand même une place prépondérante. Quoi.
En général, tout est à proximité.
Ouais,
parce qu'il s'avère que quand tu es au centre de formation, les écoles, elles ne sont pas forcément à deux pas. Enfin, moi, dans mon premier cas, ma école était à 15 minutes, donc ça allait. Mais pour ma dernière convention, du coup, j'avais fait une licence, parce que j'avais eu mon DUT. Et du coup, là, j'étais à une heure.
Ouais,
donc, si t'es motivé, c'est compliqué, mais en fin de compte, j'ai eu mon diplôme.
Ouais, bah oui.
Donc, quand on veut, on peut.
Il faut aussi
faut. Et parce qu'on avait anticipé aussi le fait qu'on a aussi allé voir cette nouvelle école pour dire et mettre en place les choses. Donc, c'est important d'être proactif dans son projet quand on sait ce qu'on veut faire. Si tu sais, aujourd'hui, t'es. Au pôle, tu sais toujours pas ce que tu veux faire, c'est différent. Moi, je savais exactement ce que je voulais faire, du coup, c'était peut-être plus simple de dire moi, je sais ça, et d'être dans l'anticipation. Mais et réfléchissez votre projet en amont avec vos parents, avec vos amis, avec vous-même. Et puis, on peut même mettre en place un bilan de compétences ou quelque chose comme ça, on peut le demander au pôle.
Ouais, exactement.
Ouais.
Ok. Oui, l'identification du projet, tu m'avais fait penser à quelque chose, puis j'ai perdu le fil, mais parce que tous les athlètes ne savent pas exactement quelle est la filière qui les botte comme ça. Donc effectivement, bilan d'orientation dès le pôle ou dès l'arrivée dans le centre. La question des transports est vraiment importante. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était que très important si l'organisation des cours, la durée des transports ou je sais pas des travaux pratiques, etc., qui font qu'il y a tel ou tel entraînement de la semaine qui ne peut pas être suivi, très important de le valider dès le début aussi de la discussion avec le club. C'est-à-dire que ce soit accepté, compris et accepté par les deux parties dès le début. Voilà, le mercredi, je dis au pif, j'ai des TD tout le matin, je ne peux pas être à l'entraînement du midi. On est tous d'accord, c'est une priorité.
Pour revenir sur le contrat et du coup les faits, c'est vrai qu'il faut en fait tout écrire sur son contrat. Donc une fois qu'on a la proposition de convention, on peut nous-mêmes ajouter des clauses qui nous intéressent. Quoi.
Oui, aussi bien au stade de la convention de formation qu'ensuite du contrat de travail professionnel, puisque pour le coup, il y a des modèles, c'est-à-dire qu'il y a des clauses obligatoires à faire figurer, qui sont des clauses légales, mais après, le reste relève de la négociation. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tout ce sur quoi vous vous mettez d'accord, que ce soit des allègements d'entraînement, des prises en charge financières, des primes d'objectifs, de résultats et tout, il faut le mentionner.
Il faut le marquer. Parce qu'il y a
pour
pas
éviter des mauvaises surprises, des changements de dirigeants.
Oui, voilà, il n'y a pas d'accord oraux. Quoi.
Ça, ouais.
On ne pourra pas se défendre avec ça, on ne pourra jamais rien réclamer.
Si à part sortir un enregistrement dictaphone et tout, mais enfin,
encore,
c'est
illégal,
pas très
quoi.
Satisfaisant. Ouais, voilà. Donc, non, il vaut mieux. Et puis, ça permet de débuter la saison aussi de manière sereine. Une fois que tout est marqué dans le contrat, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'attend pas que quelqu'un revienne vers nous. Au fait, tu m'avais dit ça. Ouais.
Et essayer de prendre en compte tous les cas de figure, parce que si on va sur un contrat de 3 ans, si... tu dis, ma troisième année, j'aimerais ça, et que tu as pensé dès la signature, Bah, dis-le dès la signature, attends pas dans 3 ans parce que personne ne va te donner ce que tu as pensé, personne ne savait que tu pensais, on n'est pas dans ta tête. Enfin, ouais. Si tu penses à quelque chose, pose la question, demande. Voilà, tant que.
Voilà, et demander surtout des explications. Voilà. Parce qu'on peut nous-mêmes ajouter des clauses, mais on peut aussi faire vérifier et demander à comprendre en fait les clauses qui ne sont pas forcément claires pour nous.
Oui.
Et à qui on peut s'adresser pour ça, par exemple. Parce que moi, je me souviens quand j'ai signé mon contrat. J'ai fait en sorte de tout lire et d'essayer de comprendre, mais il y a des termes qui étaient un peu trop juridiques pour moi, je pense, et je ne savais pas du tout à qui m'adresser. Moi, ma mère, dans le secteur du sport, elle n'était pas forcément plus connaisseuse que moi, donc je ne sais pas trop à qui on s'adresse, en fait, dans ces moments-là.
L'important, comme tu l'as dit, c'est de bien tout lire, de noter ce qu'on ne comprend pas, ce qui nécessite des explications. Interlocuteur, votre environnement familial, amical, etc. La Fédé, nous, on est à votre disposition. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps que des joueuses me disent « Tiens, là, est-ce que tu peux relire mon contrat ?» Alors, soit ça m'arrive directement, soit ça m'arrive par un parent, soit ça m'arrive par un entraîneur d'équipe de France si c'est une internationale. Mais on est à disposition. Le syndicat des joueuses peut être aussi à disposition pour accompagner en relecture, voir un avocat ou n'importe quoi de votre entourage. L'important... Et le club lui-même, c'est-à-dire que je dirais presque naturellement, le premier interlocuteur, c'est celui qui vous propose la clause, qui l'explique. Déjà, vous verrez s'il est bien en capacité de l'expliquer, qu'il l'explique, et puis ensuite, à vous de prendre les dispositions. J'insiste là-dessus, il n'y a pas de pression de « il faut que tu signes dans les 24 heures, parce que sinon je vais devoir recruter quelqu'un d'autre », ou « non, je veux pas que j'ai pas le temps que tu fasses relire à droite, à gauche ». Enfin, il n'y a aucun employeur, ça n'existe pas dans le monde du travail, un employeur qui dit à un salarié « on est au premier rendez-vous, il faut que tu repartes là en ayant signé ton contrat ». Donc, il faut vraiment se dire « certes, c'est le sport ». Mais on est sur une relation de travail, donc vous avez exactement les mêmes droits de réflexion. Ça veut, c'est pas du tout, faut pas culpabiliser en se disant ouais mais il va prendre ça pour de la défiance ou pour de la suspicion, etc. C'est votre droit. Vous vous engagez pour une relation de travail de 1, 2 ou 3 ans, c'est vraiment très sérieux, avec une rémunération, avec des différentes prises en charge qui vous sont soumises à vous, l'hébergement, enfin etc. Et donc, il faut des conditions de rupture du contrat, enfin, notamment les fautes, les interdictions qui vous sont mises. Je pense tout ce qui est port des équipements, enfin, droit de jouer avec une autre équipe, etc. Ouais, il faut lire tout attentivement. Mmh. Et donc, ne surtout pas avoir d'état d'âme à dire bah, « moi, j'ai besoin de prendre le temps de relire », comme ferait n'importe quel salarié avant d'aller signer son contrat de travail.
Ouais, ok.
Du coup, on peut reprendre le chemin que...
Ouais, donc le chemin, on était où ?
J'sais plus. Tu reçois une proposition,
ouais.
Tu la lis.
Ouais.
Tu annotes tout ce que tu as besoin d'annoter.
Ouais.
Après, tu vas certainement aller au rendez-vous.
Oui.
Moi, je conseille d'y aller accompagné. Ta mère, ta soeur, ton frère, ton meilleur ami.
On peut être accompagné de n'importe qui.
Qui tu veux.
Ouais. Hein.
Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de prévenir que tu amènes quelqu'un. Tu peux y aller avec quelqu'un sans prévenir la personne.
Ouais.
Parce que moi, je me suis retrouvée où tu penses que tu es en rendez-vous avec quelqu'un et puis tu as 10 personnes et. Ah, on pouvait rhabiller quelqu'un.
Ouais, voilà. C'est ça.
Donc
ouais.
Tu peux y aller accompagné. Puis, quand tu es au rendez-vous, poser tout ce que tu as à noter, et bah, tu fais la liste, hein, tu poses les questions que tu as à poser, tu demandes les éclaircissements et tu négocies ou pas les choses, les points sur lesquels tu as besoin de négocier. Tu n'es pas obligé de signer tout de suite, comme vient de dire Cécile. Et j'aimerais préciser que c'est pas parce que tu demandes quelque chose que le club va forcément l'accepter.
Ouais.
Mais au moins, tu sais que tu as posé la question et après, tu pourras pas regretter de ne pas l'avoir posée.
Mmh.
Voilà.
Ouais. Et puis, tout ne se règle pas forcément au premier rendez-vous. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas armé pareil pour poser des questions, pour répondre spontanément. Surtout, comme tu dis, des fois, on se trouve devant des ribambelles où il y a plusieurs personnes. Des fois, il y a des questions qui nous prennent un peu de cours dans la négociation. Enfin, c'est pas simple, même si on est accompagné. Donc là, une fois de plus, ne pas culpabiliser. On peut dire, là, j'ai besoin de réfléchir. OK, j'ai entendu ce que vous me proposez. Moi, il faut que je réfléchisse, faut que je prenne des avis. Et ça peut très bien, il peut très bien avoir un deuxième rendez-vous ou dire, je reviens vers vous par mail. 48 heures. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Ouais. Vraiment ne pas sentir de pression parce que alors, c'est la main mise dans un truc où déjà on n'est pas à l'aise dans la relation qui est en train juste de se construire avec son employeur. Donc je pense que c'est important de se dire c'est un premier rendez-vous, prise d'information.
Ouais, bah moi je me souviens personnellement, mon contrat, je crois que ma première convention de formation, j'ai dû la signer en, au bout de 4 rendez-vous. Donc vraiment, on a le temps de discuter et de se mettre d'accord sur les termes du contrat, de faire vérifier des relectures.
Voilà quoi. Juste pour anecdote, la date réglementaire dans laquelle, à laquelle les clubs doivent déposer les contrats à la fédération, c'est le 1er juin.
Ouais.
Donc,
il y a du temps, quoi.
Voilà, il y a largement du temps quand les discussions sont entamées en janvier, février.
Ouais.
Okay. Et on en parlait avant, et tu disais que la signature de ce premier de la convention ou d'un contrat, ça montre au club ta crédibilité. Ça prouve que tu es acteur de,
voilà, si
de
tu viens,
c'est ta carrière, en fait.
Voilà, si tu viens avec des questions, que tu as signé, que tu as surligné les points que tu comprends pas, c'est vraiment une manière de montrer que
t'es professionnel.
T'es impliqué. T'es professionnel.
Ouais, c'est
vers le professionnalisme.
C'est la majorité, ouais.
Vraiment.
Et pendant longtemps, c'est vrai, là-dessus, le hand féminin était en retard. Parce que voilà, le rapport de force historiquement, mais dans toutes les relations de travail, ça a été comme ça, c'était plutôt favorable à l'employeur et il disait bon, ça va de soi, c'est le chemin naturel, pas de question, hop, on signe, etc. etc. Au contraire, c'est une vraie preuve de maturité de la discipline et de la première division féminine d'être capable d'être en discussion. C'est pas du tout de l'opposition, c'est de la construction d'un projet de carrière. Et, ouais, tout à fait.
Ok, bah, je pense que sur cette belle conclusion, je vais te poser la question qui sera, je l'espère, la question signature du podcast. Est-ce que tu as une suggestion à nous faire? Est-ce qu'il y a un sujet que tu penses intéressant à traiter et qui pourrait aider les joueuses professionnelles, de centre de formation ou de pôle à avancer dans leur carrière?
Alors, si je peux me permettre, comme je suis la première, peut-être que tu vas l'autoriser, j'en aurais deux qui sont de nature totalement différente.
Ok, vas-y, t'es libre.
Je note.
Non, le premier, c'est vraiment essayer d'anticiper tous les enjeux d'un départ à l'étranger. Alors, okay. Je pense que vous l'avez peut-être envisagé, mais ça va sans doute se multiplier parce que les joueuses, on voit, et c'est la logique, comme n'importe quel acteur d'ailleurs d'une carrière, quelle que soit, je veux dire, même non sportive, on est dans un monde qui s'internationalise et donc les gens ont de plus en plus envie d'une expérience à l'étranger et a fortiori dans le sport où c'est enrichissant par rapport aux objectifs de carrière, etc. Donc, mais il y a vraiment tout un tas d'enjeux, que ça aille de sujets spécifiquement féminins, enfin la préparation d'une maternité, la protection sociale, enfin tout ce qui peut aller avec, l'accompagnement et la préparation d'un départ à l'étranger.
Ok, ça c'est le premier. Ouais.
Et le deuxième élément qui est plus lié à l'essor de notre ligue féminine et notre championnat, c'est comment les joueuses peuvent être encore plus actrices de toute la politique de communication de la Ligue. On avance vraiment beaucoup là depuis quelques années, mais j'aimerais bien qu'on trouve, alors c'est trouver un peu le modèle où les joueuses peuvent être présentes et participer aux différents sujets. Parce qu'aujourd'hui, on a une représentation des joueuses à travers le syndicat, dont je ne suis pas sûre qu'elle soit totalement représentative de ce que pensent les joueuses en activité, c'est-à-dire joueuses du championnat tous les week-ends ou tous les mercredis.
Okay.
Et ça, et vous êtes les principales actrices et donc, je veux dire, actifs même, au sens actif, du championnat. Donc j'aimerais bien qu'on essaye ensemble, donc si jamais vous avez des joueuses en activité qui participent, voilà, de voir quelles sont les propositions pour que vous soyez plus participatives.
Ok, bah, très bien. On va y penser pour la suite du podcast et pour les prochains numéros. On espère que cet épisode vous sera utile.
Et vous a plu.
Et qui vous a plu, surtout. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours. Hein,
oui, bien
déjà.
Sûr.
Hein.
Ouais,
et puis, bah, à bientôt.
Ciao.
Sur On Papers.
Ah oui, c'est
On Papers.
N'oubliez pas On Papers.
C'est On Papers, c'est votre podcast. Ciao. Salut.
This one I bet you with the jabata.